J'étais une enfant plutôt intrépide et je rêvais de vivre une vie d'aventure. Et puis, lorsque j'ai eu à peu près à l'âge de 8 ans, mon père nous a déclaré: je vais m'inscrire à l'aéroclub d'Auvergne et je vais apprendre à piloter. Et je me suis dit, mais l'avion, c'est un moyen idéal pour vivre cette vie d'aventure et d'exploration. Donc, à 15 ans, j'avais économisé un peu d'argent. Avec cet argent, je me suis inscrite à l'aéroclub d'Auvergne, là où volait mon père, et j'ai commencé à prendre mes premières leçons. J'ai même fait mon premier vol solo. J'avais même pas mon permis de conduire. À 15 ans, vous pouvez voler seul dans le ciel. Et donc, on arrive le 12 mai 1991. Ce jour-là, l'aéroclub avait prévu une balade. Et l'objectif, c'était d'aller à la rencontre des pilotes de Canadair à Marignane. Et puis, donc, avec mon père, on part de Noir et Table. Et puis, sur la route, on voit bien que la météo est pas de notre côté ce jour-là. Et on arrive, c'est les premiers sur l'aérodrome de Clermont. Et immédiatement, on va voir le météorologiste. Et il nous dit, sur le massif central, c'est tout bouché, ça passera pas. Et les autres pilotes sont arrivés. L'un d'eux a dit, bon, on y va. Et ben, si ça passe pas, on fera demi-tour. Donc, nous voilà partis en direction de Marignane. Donc, on était comme un peu dans un brouillard, pas très épais. Sauf que, à un moment donné, un mur de nuages devant nous, c'est-à-dire une masse sombre, compacte. Alors à ce moment-là, le copilote à côté qui crie: putain, qu'est-ce que tu fous? Tu vas nous faire casser la gueule. Moi, j'ai pris peur, je me suis rattachée. Et je ne sais pour quelle raison, le pilote qui était pourtant expérimenté a foncé tout droit. Et les nuages nous ont engloutis en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a totalement perdu le contact visuel avec le sol. Dans ce cas de figure, lorsque vous rentrez dans les nuages et que vous n'êtes pas entraîné pour voler dans les nuages, en 3 minutes, vous êtes mort. Et donc, on est rentré dans les nuages, on a percuté la cime des arbres sur le flanc d'une montagne, au mont Alambre. Avec la violence, l'impact, les pilotes à l'avant sont morts. Mon voisin, qu'il a été éjecté en dehors de l'appareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette région, il y a eu des dizaines et des dizaines de crashs, y compris d'avions de chasse. Et de tous ces accidents, je suis la seule rescapée. Donc j'étais complètement coincée dans cette carlingue. Je ne pouvais pas m'extraire de l'appareil. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que j'avais un pied coincé sous le siège du pilote, avec une fracture ouverte, mais de toute façon, je ne sentais plus rien à ce moment-là déjà. Les secours mettront 12 heures pour retrouver l'appareil. Et je suis une miraculée parce que ce qui s'est passé, c'est que l'hélicoptère nous cherchait. Il ne nous trouvait pas à cause du mauvais temps. Donc j'ai appelé au secours et là, par chance, un secouriste se trouvait à 80 mètres plus haut et a entendu mes appels au secours et s'est guidé à ma voix. Alors lui, il est venu prêter main-forte au secours. C'est un radio amateur et ils ont entendu ce jour-là qu'un avion avait disparu et ils connaissaient particulièrement ce mont Alambre. Ensuite, je ne me souviens pas du tout quand il est arrivé. Pourtant, on s'est parlé, hein, et je sens bien que cette histoire a bouleversé sa vie. Il ne veut pas me dire exactement ce qu'on s'est dit, il m'a juste dit, voilà, je suis arrivée, j'ai vu une petite fille de 16 ans. Je suis entourée de trois personnes qui sont décédées et je le sais qu'elles sont mortes. Je le sais pertinemment. Mais je ne me souviens pas de ce que j'en ai ressenti pour autant. J'avais la certitude qu'ils étaient morts, mais je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Alors après, la mémoire revient. Je pense que les souvenirs reviennent d'une semaine après, quoi. Puis vous savez, on vous met sous morphine. Enfin, au début, on réalise pas du tout ce qui nous arrive. En fait, les médecins, c'est pas tellement eux qui vont m'annoncer la paraplégie définitive. En fait, c'est moi qui vais le comprendre. Parce que un matin, bon, je fais mon transfert sur le fauteuil. C'est pénible, vous savez, transférer, c'est par la force des bras. Vous passez du lit jusqu'au fauteuil, ok. Je descends faire ma kiné. Et c'est là où je lui ai posé la question très franchement. Je lui ai dit, mais quand est-ce que ça va revenir? Et là, elle m'a dit, mais tu sais, Dorine, il se peut que ça ne revienne jamais. Et là, j'ai compris. J'ai dit, mais bien sûr, ça ne reviendra jamais. Forcément. J'ai perdu mes jambes, quoi. J'ai perdu ce qui fait que j'étais une personne entière, libre. Et en même temps, comme vous êtes rescapé, bah, ça vous donne quelque part pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous êtes vivante. Je suis remontée dans ma chambre et là je me suis enfermée et j'ai pleuré jusqu'au lendemain matin. Je voulais en finir avec la vie. Et au petit matin, j'ai entendu des éclats de rire. Je suis allée voir. Et là, c'était deux jeunes, ils avaient à peu près mon âge, quoi, qui faisaient les cons avec les fauteuils, qui faisaient la course dans le couloir. Et j'ai compris que peut-être je pourrais me relever. Et très vite, s'est imposé l'idée de reprendre les commandes d'un avion. Alors, faut vous situer, on était en 1991. On avait des fauteuils qui pesaient 15 kilos et surtout les mentalités. Moi, c'est simple, hein, à ce moment-là, on m'avait dit que mon avenir, ce serait les allocations familiales et le canapé. J'avais 16 ans. Et ben après, comment faire pour savoir si je pouvais revoler et s'il existait des avions équipés de commandes manuelles. Et parallèlement, j'avais écrit un témoignage dans un magazine aéronautique et le président de la section handicap de l'aéroclub Midi-Pyrénées à Toulouse me répond en me disant « Mais venez voler chez nous, vous serez la bienvenue, on a des avions adaptés de commandes manuelles de pilotage. » C'était une bonne chose de remonter très très vite. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que vivre en fauteuil roulant, c'est comme si vous étiez dans les embouteillages. Tout est compliqué, tout est énervant. Mais quand vous êtes en avion, vous glissez sur les filets d'air, vous êtes comme dans une bulle. Donc c'est ça aussi que j'allais chercher. Et donc je suis devenue la première femme handicapée au monde, pilote de voltige. C'est une belle revanche.